Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes. Face à la crise du coronavirus, les médias sont contraints d'organiser différemment le fonctionnement de leur rédaction. Avec le confinement, le télétravail s'est par exemple généralisé et les modes de production, voire de narration, se sont adaptés. On en discute aujourd'hui avec celui qui a créé cette émission il y a bien longtemps maintenant, Philippe Couve, qui est aussi le fondateur de Samsa.fr.
Bien qu'à la fin, vous ferez le compte, il y aura moins de cas qu'il y a eu de grippe l'année dernière ou l'année d'avant.
Vous avez sans doute entendu ce discours selon lequel le masque chirurgical était inutile pour l'ensemble de la population.
Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
Eh bien, dire que le masque de chirurgien ou de soins était inefficace pour se protéger contre le virus, c'était une erreur.
Ces dernières semaines, une théorie du complot a rencontré un large succès à travers le monde. La technologie 5G serait à l'origine de la propagation du coronavirus Covid-19. La communauté scientifique est unanime. Cette théorie ne tient pas debout.
You ready? I hope people enjoy the sun. And if it has an impact, that's great.
Salut Philippe.
Bonjour Steven.
Comment ça va et comment se passe ton confinement?
Écoute, j'aurais mauvaise grâce à me plaindre. Je suis installé à Paris, tout va bien, il fait beau, j'ai un balcon, je profite du soleil. Tout le monde va bien autour de moi. L'équipe avec qui je travaille a l'habitude de travailler à distance, donc on n'est pas déstabilisé par le contexte actuel. Donc globalement, ça va bien.
Bon, et en termes d'activité pour l'instant, enfin, si on regarde autour de nous, les gens ont de plus en plus besoin de s'informer. On voit que les audiences des sites d'information en ligne s'envolent depuis plusieurs semaines, avec x2, x3, parfois plus en termes d'audience, même si ça se calme un petit peu maintenant. Et pourtant, les sources de revenus traditionnelles des médias sont en chute libre, à savoir la vente au numéro, la publicité, l'événementiel. Tout cela, ça n'augure rien de bon, j'ai envie de dire.
C'est le paradoxe de la situation actuelle, un paradoxe extrêmement fort. Peut-être qu'on n'a jamais, dans la période récente, eu autant besoin des médias pour savoir ce qui était vrai, ce qui ne l'est pas. Et on le constate, les gens se ruent effectivement sur les sites des médias, écoutent la radio, regardent la télévision pour tenter de s'informer, notamment au début de cette crise, dans le chaos d'informations diverses et contradictoires dans lequel on pouvait être, et de rumeurs parfois totalement sans fondement qui pouvaient circuler, notamment à travers les réseaux sociaux. Donc un besoin extrêmement important d'information et des signes aussi extrêmement positifs. La plupart des médias avec qui nous on discute très régulièrement nous disent qu'ils ont constaté des augmentations très très importantes des ventes de leurs abonnements numériques. C'était très fort, des fois 4 fois, 5 fois, voire quasiment 10 fois plus fort pour certains sur les premiers jours de cette crise. Mais aujourd'hui, on est retombé. Alors, ça reste plus important qu'en temps ordinaire, mais c'est un peu retombé. Mais le paradoxe, justement, c'est que de l'autre côté, l'autre partie des recettes pour ces médias qui vivent à la fois de leurs audiences et de la publicité, eh bien, les recettes publicitaires ou les recettes de diversification, organisation d'événements, ce genre de choses, tout ça s'est littéralement effondré, c'est tombé à zéro ou quasiment à zéro, ce qui fait que les médias dont on parle, alors les médias de presse écrite, mais également d'autres, parfois en radio et peut-être parfois en télévision aussi, sont extrêmement fragilisés économiquement par cette situation. On sait que les médias, alors notamment dans la presse écrite en France, on le dit depuis longtemps, ce sont des médias qui sont sous-capitalisés, qui ont vécu beaucoup à l'aide aussi de subventions d'État qui se sont renouvelées pendant des années et des années. Et ces médias ont vraiment, et certains d'entre eux vont avoir du mal à faire face à la crise qu'on traverse. On a vu que le quotidien régional Paris-Normandie était en situation de faillite. Alors, c'est un journal qui est extrêmement fragile depuis plusieurs années déjà, mais on risque d'avoir à nouveau des journaux qui arrivent à la barre du tribunal de commerce parce que leur situation sera extrêmement dégradée d'un point de vue économique.
Et pourtant, on voit des médias et des journalistes qui font clairement leur boulot, qui font bien leur boulot. Est-ce que, avec ton œil averti, tu as observé des jolies choses faites par certains médias ou certains journalistes? Est-ce qu'il y a des changements, des évolutions très positives dans des modes narratifs, par exemple, ou dans la forme?
Ah, énormément, énormément, énormément. Alors, je ne sais pas si c'est les petites graines qu'un certain nombre de gens, dont je fais partie, ont pu semer au fil des années, qui là trouvent le moyen de s'exprimer pleinement. Mais j'ai peine à en citer parce qu'il faudrait quasiment citer tout le monde. Mais si on regarde les vidéos explicatives que produit Le Monde en ce moment, historiquement quotidien, Le Monde produit des vidéos explicatives d'extrêmement grande qualité. On a vu que Julien Pin, qu'on a connu dans les premières années de l'atelier des médias, qui s'occupait de la rubrique des observateurs sur France 24 et qui maintenant travaille pour France Info, a une rubrique de décryptage de fake news dans le journal de 20h de France 2, la principale chaîne du service public, où les journalistes interviennent depuis leur domicile avec la caméra de leur téléphone mobile. Dans le sud de la France, à Nice matin, il y a un véritable réseau social et système d'entraide sociale en période de coronavirus qui a été mis en place par le quotidien Nice matin. Le journal L'Équipe, dont on pourrait penser qu'avec l'annulation des compétitions sportives, ils seraient privés de toute matière éditoriale, sont en train de démontrer depuis un mois qu'il y a plein de choses à raconter en dehors des résultats dans le monde du sport, dans la manière dont les sportifs se mobilisent, essayent de se réinventer. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on pourrait en citer énormément, énormément d'autres. Quasiment, ça foisonne un peu partout en ce moment.
Alors, je le disais en introduction, tu es le fondateur de SAMSA.fr, un organisme de formation spécialisé dans la transition numérique des organisations. J'ai envie qu'on se penche spécifiquement sur les médias. Quelles sont les demandes expresses des médias en termes de formation depuis le début du confinement en France ?
Alors, je vais parler, oui, des médias en France, avec qui nous, on est en contact très, très régulier. Alors, d'abord, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant. C'est-à-dire que nous, on parle à nos interlocuteurs dans les médias de la formation à distance depuis un moment. Et les gens étaient assez rétifs en disant non, mais c'est trop difficile à organiser pour nous, etc. Et puis là, tout d'un coup, depuis le confinement, depuis le début de cette crise du coronavirus, les gens veulent absolument, ben forcément, puisqu'on ne peut pas faire autrement, qu'on organise des formations à distance. Il faut dire que dans un premier temps, la question de la formation n'a pas été prioritaire. Les médias avaient d'abord à se réorganiser, ce qui s'est traduit très pratiquement pour certains. Du jour au lendemain, il a fallu prendre un certain nombre d'ordinateurs dans les rédactions, que les salariés les emportent à leur domicile. Il a fallu s'organiser, s'acclimater à des réunions en visioconférence, s'acclimater à des outils de messagerie instantanée, mettre en place le mode dégradé, comme on dit en informatique, pour fonctionner, alors qu'un certain nombre d'outils et de dispositifs manquait. Et puis, depuis quelques jours, une dizaine de jours maintenant, on voit que il commence à se projeter un peu au-delà pour tout le monde. L'idée, c'est que la situation va rester difficile pendant longtemps. Alors en France, il y a un dispositif de chômage technique qui a été mis en place, enfin étendu en tout cas par le gouvernement, qu'on appelle l'activité partielle, qui fait que les salariés, dans cette période de coronavirus, peuvent être mis au chômage temporairement par l'entreprise, mais continuent à être payés par l'État. Et dans ce cadre-là, ils peuvent également bénéficier de formations qui sont prises en charge aussi par l'État. Et là, dans ce cadre-là, on voit beaucoup de choses qui tournent autour de numérique, de demandes de formation autour du numérique qui nous sont adressées. Et d'ailleurs, on est en train de développer un programme spécifique qui comprend à la fois l'usage des outils collaboratifs, la production de vidéos avec smartphone, la production de podcasts d'interviews, la créativité éditoriale et les outils de veille pour ces publics qui sont en demande aujourd'hui de ces formations, parce qu'ils se rendent bien compte que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on ne sait pas si ça va durer tout le temps, mais en tout cas, ça porte aussi les germes de ce que vont être nos organisations du travail dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et on le dit souvent en faisant la blague, mais le plus fort pour faire la transformation numérique des médias, c'est pas le PDG, c'est pas le consultant, c'est pas le formateur, c'est le Covid-19 qui a été l'outil le plus efficace de transformation numérique d'organisation qui parfois a été engagé depuis des années mais à petits pas dans ces logiques et qui là ont dû franchir à vitesse grand V toute une série d'étapes dans des conditions souvent extrêmement difficiles, mais en tout cas je pense qu'un certain nombre de déclics sont en train de se faire.
Donc là, ton organisme fait 100% de ses formations à distance. Il faut bien l'expliquer à nos auditeurs parce que...
C'est interdit aujourd'hui de réaliser des formations en présentiel. Et une fois que le début du déconfinement en France se mettra en œuvre à partir du 11 mai, on ignore encore quelles seront les conditions pour les organismes de formation, s'ils pourront et dans quelles conditions ils pourront éventuellement reprendre des formations en présentiel. Donc pour l'instant et jusqu'à plus ample informé, toutes les formations doivent se dérouler à distance pour des questions de sécurité sanitaire.
Alors en cette période, samsa.fr propose également des ateliers en ligne gratuits pour les journalistes et les communicants, ouverts à tous. Peux-tu nous en parler un petit peu ?
On a décidé dans cette période de partager un peu les compétences, le savoir-faire de nos formateurs, de nos experts dans différents domaines. Et on organise une fois par semaine des ateliers en ligne d'une durée d'une heure dans lesquels on lève le voile un peu sur une technique, sur une pratique professionnelle. Donc on a parlé du motion design, cette technique qui permet d'avoir des animations sur les vidéos, des textes animés, etc. On a parlé du mind mapping, c'est une technique de... pour produire des cartes mentales qui permet de mieux organiser sa réflexion, notamment quand on veut rédiger un article ou même un livre ou des choses comme ça. On a parlé des outils de la recherche et de la vérification de l'information en ligne avec les techniques qu'on appelle maintenant OSINT pour Open Source Intelligence, c'est-à-dire le renseignement sur source ouverte. Et on continue comme ça chaque semaine d'ouvrir ces webinaires en ligne qui sont d'accès gratuit. Il suffit de s'inscrire et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de samsa.fr. Dans la même logique, on anime aussi, enfin on coproduit un podcast sur les innovations médias qui s'appelle Aparté. Et dans ce podcast, on reçoit une fois par semaine des acteurs du monde des médias, des francophones, qui viennent nous expliquer comment ils innovent. Et en ce moment, particulièrement dans ce contexte de pandémie de coronavirus.
Merci beaucoup, Philippe Couve.
Mais avec plaisir. Et salut à tous les amis de l'Atelier des médias et de Mondoblog.
À bientôt.
Monsieur Corona, qui es-tu ? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu ? Monsieur Corona, qui es-tu ? Le monde ne comprend pas ce virus que tu. La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru ? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosquées se sont vidées. Les restos sont confinés, tous les bars sont sous-scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc. Que Mamadou, le guérisseur, a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger, c'est secourir les autres, faire le bon geste. Oh, donc lave-toi les mains très régulièrement. Au savon, avant de tousser, mets le coude en avant. Oh, utilise un mouchoir à usage unique. Oh, en cas de contagion, reste chez toi sans panique. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude. Si je refuse, faudra pas que tu me boudes. Même à ce qu'on ait le nouveau style est toxique. Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique. Monsieur Corona, qui es-tu ?
Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ?
Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu.
Où vas-tu ? Où vas-tu ? Où est la qui es-tu ?
Monsieur Corona, qui es-tu ?
Qui es-tu ? Qui es-tu ?
monde ne comprend pas ce virus qui tue.
Où vas-tu, où vas-tu, où vas-tu, yeah.
En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous, appelez votre médecin ou le numéro vert.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de retrouver Mondoblog Audio. Direction Madagascar, où des mesures de confinement ont également été imposées et où le télétravail s'est là aussi développé bon gré, mal gré.
À Madagascar, nous sommes en confinement. Le Covid-19 a bouleversé nos vies. Dès le début de la crise, de nombreuses entreprises ont décidé de mettre leurs employés en télétravail. Les gens ont emporté leurs ordinateurs à la maison et maintenant, des milliers de Malgaches travaillent de chez eux. Le télétravail, c'est nouveau pour beaucoup de salariés. C'est un très grand changement, une aventure professionnelle. Il y avait un risque de chaos. Est-ce que les employés auront toujours une conscience professionnelle loin du bureau ? Télétravailler, c'est d'abord acquérir un sens de l'organisation. Être à la maison et réserver 8 heures chaque jour à son travail n'est pas évident. À quelle heure je dois me lever? Quand est-ce que je prends une pause? Souvent, l'appartement de l'employé n'est pas adapté à la concentration. On entend les bruits des voisins, les enfants sollicitent leurs parents, car eux aussi, ils sont à la maison en vacances forcées pour cause du coronavirus. D'ailleurs, les parents travaillent plus la nuit que le jour. Travailler à la maison n'est donc pas facile. Les discussions avec les collègues se font désormais sur les outils numériques comme Skype, Facebook Messenger, Slack ou WhatsApp. C'est bizarre de ne plus être physiquement avec ses collègues de travail. L'interaction physique entre collègues de travail manque énormément à certains employés. Ceux-là préfèrent largement être au bureau que d'opérer en télétravail. Parlons du feedback des employeurs que j'ai lu dans les discussions en ligne. Ils ont constaté un professionnalisme chez la majorité de leurs employés. Beaucoup ont réussi à trouver leur rythme. Ils travaillent même plus qu'en étant au bureau. Mais ils ont aussi constaté un relâchement chez ceux qui n'ont jamais retrouvé un rythme de travail normal. Cette façon de travailler, qui s'est imposée avec le coronavirus, s'arrêtera un jour. Le télétravail sera-t-il le futur du monde du travail? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira.
Ce qui est sûr, c'est que la crise du coronavirus laissera aussi des traces dans l'organisation du travail. C'était le mondoblogueur malgache Rijan Randrianomanan du blog Gassikara Rien ne bouge. Je vous rappelle que les blogueurs francophones de RFI s'expriment au quotidien sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Si vous l'avez prise en marche à la radio, vous pouvez la réécouter dès maintenant en podcast sur RFI.fr ou sur votre application préférée. La semaine prochaine, je recevrai l'économiste Julia Cagé, professeure à Sciences Po Paris. Elle est notamment spécialisée dans l'économie des médias. Nous échangerons sur la situation économique, la propriété et la gouvernance des médias en France. Nous nous interrogerons aussi ensemble sur les médias dans ce que certains appellent déjà le monde d'après. À la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
Collectif 236.
Yeah, yeah. Doc, 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 t'as assassiné, t'as assassiné. On est bon, on est bon. Hey. Let's go. Corona.
Soi, faut pas s'embrasser, respecter les consignes.
Ah, 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 baba na mama, tenati senya ke kojoye, si tomba na kobela so.
Oh les mains fausses, lavez les mains. Coronavirus c'est la fausse. Lavez les mains, veille pas, ne bloque pas comme un décor. Avant qu'on te décore, respecte tes consignes. Covid 19 c'est pas un jeu. Prends-le au sérieux. Lave, lave, lave-toi les mains.